Bonjour, vous êtes bien sur Radio Méga dans notre émission Underscore. Et derrière DE se cachent bien certains commerces. Met-elle de bons produits, nous resterons à la page, au top 10 des meilleurs. Alors, je ne vous laisse pas plus attendre, allons-y.
Bonjour Mehuman, bonjour Rododo, bonjour Maître Belle.
Bonjour Cécile.
Bonjour Cécile.
Salut tout le monde.
Et bonjour à nos auditeurs que nous retrouvons aujourd'hui pour vous parler de quelque chose d'un peu compliqué. Elle avait l'air de dire e-commerce. Non, elle ne va pas raconter de ragots, mais nous allons parler de l'e-commerce, un sujet qu'on n'avait pas encore abordé, même si on a bien tourné autour de peau avec la législation, les droits des consommateurs. Bref, on vous en parle juste après un peu d'actualité.
Qu'est-ce qu'on a à l'actu ?
La Quadrature du Net demande l'arrêt du Il Data Hub, projet central du plan national pour l'intelligence artificielle surnommé AI for Humanity. Le Il Data Hub est un projet visant à centraliser l'ensemble des données de santé de la population française. Il est prévu que le HDH regroupe entre autres les données de la médecine de ville, des pharmacies, du système hospitalier, des laboratoires de biologie médicale, du dossier médical partagé, de la médecine du travail, des EHPAD ou encore des données de programme de séquençage de l'ADN. Le HDH se substitue à une structure existante, le système national de données et de santé. Avec deux principales modifications, un large élargissement, c'est pas ouvrir des portes ouvertes tout ça, des données collectées et un accès facilité en particulier pour le secteur privé, GAFA, MedTech, start-up et assureurs à ces dernières.
Et en plus c'est en anglais.
Des eurodéputés interpellent la Commission européenne sur l'IA. Plus de 100 eurodéputés écrivent à la Commission européenne pour appeler à des lignes rouges claires sur l'usage de l'IA, notamment afin de garantir la possibilité d'interdire certaines applications IA incompatibles avec les droits fondamentaux. On peut penser au flingue qui tire tout seul.
C'est vrai.
30 ans après la sortie de la PlayStation, un nouvel exploit permet d'utiliser des jeux copiés. Une faille dans la lecture d'une carte mémoire permet d'injecter du code. En l'occurrence, un bout de code qui permet de déverrouiller la console et d'utiliser d'autres jeux que les originaux.
Première vente aux enchères judiciaires de Bitcoin en France. Ces actifs numériques, c'est le terme actuel, ont été saisis dans le cadre d'une affaire toujours en cours. Pas sûr que si les prévenus sont relaxés, ils ne se retournent pas contre l'État pour leur avoir fait perdre une plus-value sur leurs 611 bitcoins, estimés tout de même à 28 millions d'euros, avec une vente trop rapide.
Rockstar Games paye 10 000 dollars pour les optimisations de chargement de GTA Online. On vous a parlé récemment de GTA Online qui passait 70% de son temps de chargement à lire un fichier JSON de 10 mégas, de façon pas optimisée du tout. Son éditeur a donc remercié et celui qui a découvert ça.
Japon, le premier parc à thème Nintendo vient d'ouvrir. On peut y vivre les aventures de Mario en vrai, y compris taper un cube pour obtenir des pièces. C'est japonais, quoi.
Remise des Free Software Awards sont distingués le projet CVCRM, Project Loon pour la défense de la licence GPL et son travail au sein du Software Freedom Coalition. Alissa Roberts-Wick pour ses travaux d'ingénierie inverse et des puces graphiques Mali utilisées notamment dans les tablettes et les téléphones portables.
Richard Stallman revient au conseil d'administration de la FSF.
Sérieux, il revient ?
Ouais. Pour rappel, il avait démissionné il y a 2 ans suite à certains propos qu'il avait tenus. Et ça fait pas plaisir à tout le monde. Certains appellent la FSF et le projet GNU à lui retirer ses mandats. D'autres, en revanche, veulent le garder et la firme. Donc, c'est un peu compliqué. L'avis de l'April est un peu plus nuancé.
L'association Anticor porte plainte contre le ministre de la Santé. Elle souhaite mettre à jour le favoritisme dans la gestion de l'application Stop Covid. Oui, c'est sûr.
Sortie d'Audacity. Pardon, un chat dans la gorge. Sortie d'Audacity 3.0 avec un nouveau format d'enregistrement. Des dizaines de bugs ont été éradiqués pour mener à bien cette sortie d'Audacity 3.0 pour Linux, Windows et Mac OS X avec un nouveau format d'enregistrement par défaut.
Sortie de PeerTube 3.1 avec des améliorations sur le transcodage des vidéos ainsi que plusieurs parties de l'interface utilisateur.
Sortie de GNOME 40. Oui, ils ont le même système de numérotation que Firefox. Plein de nouvelles fonctionnalités dans cette version du bureau GNOME.
Et enfin, 5 ans après son lancement, le Fairphone 2 reçoit une mise à jour. Waouh ! Ceux qui en ont un peuvent maintenant installer Android 9 dessus. Waouh ! Eh bien, nous allons vous proposer d'écouter Fantasia de Andrea Jake pour nous retrouver tout de suite après notre sujet du jour sur le e-commerce. À tout de suite.
Bah ça pulse ça, dis donc.
Ah, c'était bien agréable. En tout cas, c'était une belle pause musicale pour ce jour avec Andreas Jake, Fantasia.
On passe au sujet? Jingle.
Le sujet.
Eh bien oui, le sujet, et le sujet d'aujourd'hui, ce sera le e-commerce. Nous n'avions pas encore exploré certains terrains de l'Internet. À présent, je pense qu'il est enfin temps de prendre nos machettes, notre chapeau d'explorateur, pour nous frayer un chemin dans la jungle terrible du e-commerce. Avec l'avènement du confinement, vous avez peut-être découvert qu'il était possible d'acheter des produits sans vous déplacer dans les magasins. L'année 2020 est l'année de l'explosion du e-commerce sous toutes ses formes. Oui, aujourd'hui, tu peux acheter ton papier toilette depuis ta chaise.
Wow.
Il y a tellement de formes de commerce que ça mérite de s'y pencher très fortement et de vous proposer aussi de pouvoir déjouer certains pièges, qu'ils soient tendus de manière intentionnelle ou bien qu'ils soient sciemment posés devant vous. Ici, je vous explique tout ou presque. On va se pencher un petit peu sur l'histoire du e-commerce. 11 août 1994, Phil Branderberger, aux États-Unis, passe sa première commande en ligne en utilisant un système de paiement sécurisé par carte bancaire.
Wow.
Le New York Times couvre l'événement et souligne que derrière un petit clic pour un individu se cache un grand pas pour l'économie. Ce premier achat de 12,48 $ pour un album de Sting représente la première pierre d'un édifice qui, depuis, ne cesse de croître.
Il aurait pu avoir plus mauvais goût.
C'est sûr. Le commerce électronique, ou bien appelé e-commerce, connaît ses premières ventes dans les années 90. Autant en France, nous avions déjà le Minitel qui permettait de procéder à cette fameuse vente par correspondance, la VPC, comme nous la connaissions.
3615, 3 Suisses.
L'arrivée d'Internet a rapidement mené au développement d'un modèle d'entreprise différente. À la fin des années 90, ce modèle économique est rendu célèbre par Amazon, eBay et AOL. Des sociétés qui profitent de la bulle des capitalisations boursières des jeunes sociétés sans équivalent dans l'histoire, qui finit en crack. Phénomène touchant aussi de nombreuses petites sociétés en biotechnologie. Une bulle de l'Internet naît dans ce mouvement, à savoir que les valeurs boursières des entreprises dans ce secteur augmentent sans lien avec leurs chiffres d'affaires réels ou leurs bénéfices. C'est là où, en 2000, celle-ci éclate et se reforme à nouveau pour finalement rééclater en 2006. Mais après tout, comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, il va bien falloir t'y mettre à Internet, hein ?
Oui.
Alors, le e-business, vous avez entendu de ce terme-là, e-commerce, e-business, ces deux termes, en fait, sont bien liés. Mais c'est l'occasion ici de vous éclaircir un petit peu plus les définitions, à savoir que le e-business est l'abréviation d'électronique business, ce qui signifie business électronique en français. Il couvre toutes les formes de technologies numériques de l'information et de la communication utilisées pour soutenir ou rendre les processus de vente plus efficaces, tant dans les phases de préparation, de négociation que de mise en œuvre. Toutefois, ce terme peut aussi être traduit et utilisé dans le sens d'entreprise électronique, c'est-à-dire, par exemple, les processus commerciaux d'une boutique en ligne ou bien une entreprise basée sur Internet représente le e-business. Les deux différences d'interprétation de ce terme indiquent un problème fondamental. Jusqu'à aujourd'hui, aucune définition générale n'a été connue ou adaptée pour le e-business. Au lieu de cela, le terme est souvent vastement interprété et souvent employé à tort comme synonyme de e-commerce. Il y a bien sûr des regroupements avec le e-business, mais le terme e-commerce désigne particulièrement le commerce sur Internet de services et de produits. Mais viens chez nous, on a des cookies. Encore faut-il ne pas se sentir épié, piégé avec une incitation plus ou moins réelle à la débauche de surconsommation. Non, ce n'est pas parce que tu as été voir discrètement
tu
les
pas
dernières
ça, c'est
chaussures
promo.
À la mode qu'elles vont être suggérées à travers tes réseaux sociaux.
Achète, achète.
En effet, les cookies et autres joyeusetés sont là pour récupérer encore quelques données. Il faut savoir cependant que les e-commerce, les sites e-commerce où vous achetez vos produits, doivent respecter la législation quant à l'usage de vos données personnelles. Alors, rappelez-vous, le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018. On en a parlé déjà dans une émission spéciale sur le sujet. S'agissant d'un règlement qui s'applique à l'identique dans tous les pays de l'Union européenne, ce règlement a pour objectif de garantir la protection des données de tous les citoyens de l'Union européenne, ce quelle que soit la domiciliation des entreprises qui collectent. Ainsi, les e-commerce doivent se conformer à cette réglementation afin de rendre transparent l'usage de vos données personnelles. Après tout, elles connaissent presque tout de vous, en passant de votre numéro de téléphone, votre carte bancaire, votre adresse postale, les produits que vous achetez. Ainsi donc, le site du commerçant se doit de recueillir l'accord de leurs clients, informer les clients sur leurs droits d'accès, de modification et de suppression des informations collectées, veiller à la sécurité des systèmes d'information et à la confidentialité des données, assurer donc cette confidentialité, indiquer une durée de conservation de données. Parce que ça ne peut pas être tout le temps, en fait. Il y a un moment où l'entreprise, elle doit supprimer ses bases de données également pour éviter la récolte des hackers qui profiteraient qu'un système soit défaillant pour aller pomper vos données personnelles. Ainsi, il y a quelques subtilités, notamment le commerçant en ligne n'est pas autorisé à envoyer un courriel de commercial sans l'accord préalable du destinataire donné au moment de la collecte du courriel, sauf si la personne est déjà cliente et que la prospection concerne des produits identiques à ceux déjà fournis. La prospection n'est pas de nature commerciale, caritative par exemple. Cela peut être aussi qu'il est important, lorsque vous décidez de créer votre fiche cliente, de veiller à ne pas cocher certaines cases, comme celle-ci autorise précisément le site e-commerce à vous envoyer des publicités. Après tout, nos boîtes aux lettres sont déjà assez pleines.
Ouais, ou alors la décocher la case. Ou alors cocher la case qui dit « je ne veux pas », parce que des fois c'est à l'envers.
C'est
ça. Non, c'est pas drôle, hein.
À noter que la CNIL, elle recommande que le consentement préalable ou le droit d'opposition soit recueilli par le biais d'une case à cocher. L'utilisation d'une case précochée est proscrite et contraire à la loi. Donc, comme tu disais, normalement, on ne devrait pas être dans ce cadre-là. Normalement. Dans les deux cas, la personne doit, au moment de la collecte de son adresse, être informée de l'utilisation pour prospection et pouvoir s'y opposer. Dans tous les cas, chaque courriel doit obligatoirement préciser l'identité de l'annonceur et proposer un moyen simple de s'y opposer à la réception de nouvelles sollicitations. Généralement, les sites e-commerce bénéficient d'un système de panier, sauf si vous avez décidé d'acheter sur un site polonais qui se chargera d'honorer vos commandes après le labourage des champs. Ceci n'est pas une expérience personnelle.
Ah bon.
Il est aussi prévu que vous ayez la possibilité de savoir si le produit que vous achetez est en stock et aussi de connaître son délai de livraison. C'est une forme de contrat de vente. Le vendeur doit adresser immédiatement un courriel d'accusé de réception de la vente et doit aussi délivrer une facture à son client lors de la livraison. Personnellement, la livraison le dimanche, je trouve ça aberrant. Parce que effectivement, oui, j'ai constaté de plus en plus souvent, lorsque vous commandez un produit sur Internet, eh ben, vous n'avez pas le choix de la date. Et ça peut tomber le dimanche.
Oups.
Néanmoins, passé mes considérations personnelles, il faut savoir qu'il sera nécessaire d'attendre au plus tard 30 jours pour obtenir la livraison. Enfin, tant qu'aucun porte-conteneur ne se retrouve coincé dans le canal de Suez, tout ira bien. Je crois bien qu'il y a d'ailleurs des pelleteuses qui se chargent, une pelleteuse qui se charge de décoincer tout ça. Eh bien oui, hein, parce que vos produits, ils viennent bien de quelque part, hein, bien de Chine souvent. Hein. Et passent par ce canal. Bref, généralement, le fournisseur de biens ou de services à distance, autre que les services financiers, doit indiquer avant la conclusion du contrat la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter sa prestation. En cas de retard de livraison ou de la prestation, le fournisseur doit en informer le client, qui peut être remboursé dans les 14 jours suivant le paiement. Et comme le client est aussi un peu roi, il n'est pas obligé d'accepter certaines modalités de remboursement, comme par exemple avoir un avoir sur le prochain achat.
Ouais.
La différence avec le commerce traditionnel est le délai de rétractation, qui vous permet de retourner le produit si vous n'êtes pas satisfait. et qui a parfois des conséquences écologiques où les produits retournés, on en a parlé, ils finiront au pilon. Alors, bien sûr, dans le e-commerce, il y a des choses sur lesquelles il faut rester méfiant. Par exemple, le drop shipping. Bah, qu'est-ce que c'est ? Au départ, les influenceurs de YouTube ou autres canaux iront vous vanter les mérites de certains produits. C'est là où se situe le piège. Ils vous suggéreront souvent de vous rendre sur une boutique prévue à cet usage pour acheter le produit. Déjà, les origines de ces produits sont parfois plus que douteuses, mais aussi leur prix, qui seront bien plus chers que certains sites spécialisés dans les chinoiseries, comme par exemple AliExpress, pour ne pas citer. Les marketplaces aussi sont des lieux trompeurs. En effet, il devient difficile de pouvoir remonter l'origine et le prix de vos produits. Selon le canal d'achat, le prix sera différent. Ça prend parfois du temps, mais il est préférable de voir, soit en fonction de votre éthique, de toquer à la porte directement du fabricant, ou bien d'aller voir celui qui aura les conditions les plus intéressantes pour vous. Il y a aussi des pièges à éviter quant à la souscription d'un programme de fidélité premium qui sont vite cochés et qui vous induisent de votre part un abonnement à un service. C'est d'ailleurs là où vous devez être vigilant pour annuler votre inscription et ainsi donc vous éviter des prélèvements sur votre compte. Amazon a fait très fort, mais rassurez-vous, on peut faire machine arrière assez rapidement. Et pour information, Cdiscount n'est pas non plus en reste. D'ailleurs, les 60 millions de consommateurs avaient un peu tapé sur les doigts d'Amazon au moment où ça a commencé à émerger, ce genre d'abonnement. Dans tous les cas, aujourd'hui, même si une grosse partie du e-commerce français se sent un peu, ça sent un peu le roussi en ce moment avec la disparition de certains serveurs, il est devenu indispensable pour les entreprises d'ouvrir une fenêtre afin de permettre à leurs clients, quelles que soient les circonstances, de pouvoir acheter leurs produits ou leurs services avec, nous l'espérons, une solution pour éviter de se faire voler par des commerces plus gros qui auront souvent plaisir à court-circuiter ces personnes afin de s'approprier leurs propres clients. Mais ça, je crois que c'est un autre sujet.
Ouais. Et puis, parfois, le fait de râler sur Twitter, ça marche mieux que de faire une réclamation au service client, bizarrement. Mais...
ça va très vite parce que les community managers derrière réagissent très vite. Je suis bien d'accord.
Merci Cécile pour ce sujet. J'espère que vous avez appris certaines choses et que vous allez pouvoir faire votre shopping en ligne un peu plus serein.
Si je peux ajouter, il y a le Centre européen des consommateurs qui est aussi, qui est français aussi. On peut laisser aussi l'adresse. Ça protège et c'est gratuit.
Et bien, on mettra tous les liens sur AAA.fr, bien sûr, comme d'habitude.
On fait une petite écoute de 2021.
À tout de suite.
À tout de suite pour l'agenda.
We'll be right back. l'actu.
C'était la musique issue d'une démo 2021 de Cocoon et de New Order à regarder sur YouTube quand vous aurez l'occasion de retourner voir quelques démos.
Et on passe à l'agenda.
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Qu'est-ce qu'on a ?
Squill 2021, atelier d'édition libre. Dans le cadre de cette activité en ligne organisée par le Café des Savoirs Libres, un atelier de numérisation et de création d'e-pub sera proposé à partir d'œuvres du domaine public. Ce sera le jeudi 1er avril de 18h à 20h, heure de Montréal, Québec, et en ligne.
Journée fenêtres ouvertes, devenir pro de la com avec des logiciels libres. La licence pro Colibre, métier de la communication, forme la conduite de projets de communication avec des logiciels libres pour connaître les pratiques numériques et l'écosystème de l'open source. C'est le 2 avril à 14h, la conférence interactive en ligne.
Et si vous n'avez pas encore écouté, vous pouvez réécouter l'émission de la semaine dernière qui justement parle de la licence Colibre. Ensuite, on a Forum ouvert, faut-il en finir avec le libre ? La Dérivation, structure d'éducation populaire sur les enjeux du numérique, organise un forum ouvert en ligne autour d'une question volontairement provoque, faut-il en finir avec le libre ? Du 2 au 4 avril, en ligne, sur inscription.
Révision 2021. Pour la seconde fois, et espérons-le la dernière fois, la révision se déroulera en ligne. Ce sera donc du 2 au 5 avril. Ce sera, comme il disait, ensemble, sur notre sofa.
Débat syndicalisme et logiciel libre. Débat réunissant plusieurs intervenants venant d'associations du logiciel libre et de mouvements syndicalistes autour des valeurs et des luttes du syndicalisme et des logiciels libres, et de l'informatique comme organisation de travail. Ce sera le dimanche 4 avril 2021 de 14h à 16h en visio sur inscription.
Journée du logiciel libre annulée. Elle devait se tenir du 3 et 4 avril 2021. Certaines conférences seront tout de même diffusées en ligne en guise de consolation.
Tu as eu des nouvelles par rapport à cette annulation
Effectivement, ils pensaient que ça tiendrait, et puis vu l'évolution, ils ont jugé que c'était plus prudent, et que de toute façon il y a des personnes qui pouvaient pas venir, parce qu'il y a des conférenciers qui venaient de toute la France pour certains, donc y en a qui sont dans des régions et ils ont pas le droit de sortir déjà.
Maintenant le Rhône qui va être confiné, ça va être définitivement impossible à tenir
de toute façon. Mais bon, ils ont un peu les boules parce que ça fait la deuxième fois qu'ils annulent quand même.
C'est sûr.
Du lien et des liens ?
Alors, où faire le test Covid dans votre ville ? Avec ou sans rendez-vous ? Tous les laboratoires et centres de dépistage pour se faire tester au coronavirus.
C'est toujours Marchintosh et on a déjà de nombreuses vidéos à regarder à ce sujet.
Meetup Technosaur programmé, le Silicon Valley à 50 ans.
Trissa Catrinei, avec d'autres personnes, nous propose un guide « Lutter contre les raids numériques avec l'OSINT ». Donc OSINT, c'est l'Open Source Intelligence, donc des données qu'on peut trouver dans des sources publiques.
Circuit, voltage, résistance, current, physics 101 by physics girl. Oh, c'est très girly tout ça.
Jellora ouvre son pire tube, il bidouille de vieux magnétoscopes et autres machins antiques.
The Secret History of Windows Blue Screen by Dave Pill.
Une carte des routes de l'Empire romain. Pour voir
et
combien
enfin,
il y avait de routes.
Et enfin, le site Is the Ship Still Stuck permet de savoir si le bateau est toujours coincé dans le canal de Suez. Mais magnifique!
Donc allez voir si aujourd'hui c'est toujours coincé ou pas.
Ça c'est une bonne nouvelle, enfin au moins pour savoir les prévisions.
Voilà.
Astrologique, qui frotte la boule. 6 admins, si vous constatez une baisse de courant, c'est normal, j'installe Node.js.
Technophile, il y a un préquel à SQL? SQL,
SQL, on dit SQL. On dit sequel. Donc un prequel à sequel.
Codeur, c'est tous les jours la routine chez moi.
Électronicien, allez, t'as un circuit à terminer, dépêche-toi. Et que ça soude.
Procrastineur, voilà, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même de l'année d'après.
Physicien, un proton qui ne veut pas se désintégrer, c'est un baryon cotillard.
Vous êtes tous morts de rire là. On vous voit pas. À la radio, on vous voit pas, mais alors vous êtes tous morts de rire. En tout cas, la semaine prochaine, confinement ou pas, on est toujours là, toujours présent, pour vous proposer des sujets magiques. D'ailleurs, ce sera la semaine du 1er avril, donc peut-être qu'on parlera de brownies connectés ou de 4 quarts.
En 5G ?
En 5G.
Je force chance.
Plus sérieusement, je pense que ça sera très musical parce que Matt Bell nous a concocté quelque chose sur les Daft Punk, il me semble. Mon oreille a été un peu indiscrète, donc j'écoute et j'entends des choses. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
Bye bye.
Bon bon.
Bye. We'll be right back.